au café des années lumière aquarelle. On vous sert à toute heure un petit déj de soleil. On trouve des SOS dans toutes les bouteilles. Des brouillons de Pierrot en panne de chandelle. Au café des années lumière. Des années lumière de vacances. On boit des tasses de vagues, on siffle du silence. On s'envoie plein de glace au bonhomme de neige. On pose des lapins, oui, mais jamais de piège. Au café des années lumière de manège. Années lumière boréale. On arrose des bonsaïs de larmes de cigales. On s'accroche à leurs branches quand on sait plus chanter. On dit que c'est dimanche en attendant l'été. Au café des années lumière. Bateaux de baignoire et mêlent les pavés. Les ailes des moulins, les espoirs crucifiés. Les paroles qui s'envolent mais ne tombent jamais. Au café des années, lumière de la paix. Au café des années, lumière éternelle. De Ferré et le cheval de Brel, le chien d'Amadeus, le petit chat de Molière, le renard du petit prince, le goéland de Baudelaire. Café des années, lumière, tout est clair. Vous qui n'avez jamais trinqué qu'avec misère, qui nous enivrons de raisins de colère. Toi qui ne connaîtras que la soif du désert. Un jour nous oublierons nos saisons en enfer. Café des années, lumière.
Qui sont pleins d'affreuses photos. Qui c'est qui dévore les revues. Qui ne montre rien que des culs. Qui c'est qui ne lit que les rubriques. Hémorragique ou très lubrique. Qui c'est qui trouve que le sang c'est écœurant mais excitant. Qui c'est qui voudrait voir le métro comme un gigantesque pipe chaud. Qui aimerait bien que la sécu rembourse tous les films de cul. Qui c'est qui rêve de voir à poil, oh oui, toute l'Assemblée nationale, oh non, d'un stade de foot qui se baise tout en chantant la Marseillaise. Qui c'est qui rêve d'être fouetté par Sœur Thérèse toute clotée. Qui jubilerait de faire pipi sur la tombe de Roménie. Qui c'est qui rêve d'avoir des bleus, d'être l'esclave de Jean-Paul II. Qui c'est qui rêve d'être une poupée gonflable pour le monde entier. Merci monsieur le metteur en scène de me donner ma dose de haine. Merci monsieur le reporter de me donner ma ration d'enfer. Merci madame la nature pour vos catastrophes si dures. Si la vie était toujours rose, c'est sûr je ferais ma ménopause. Je n'ai...
au 01 43 71 89 40 sur Radio Libertaire, la radio de la Fédération anarchiste et urbi comme orbi, sans publicité ni sponsor. Alors pour vos cartes de soutien, vos cartes d'auditeur, une seule adresse, librairie du Monde Libertaire, 145 rue Amelot, dans le 11e arrondissement, car ouvert cette semaine, il faut s'y précipiter. On est bien sur Onde de Choc, le dernier comptoir où l'on cause, l'émission qui peut faire et défaire les carrières à loisir, y compris celle de Gwenola Leroux. Bonjour Gwenola.
Bonjour.
Voilà, pour le temps des gilets. Il n'y a pas le mot jaune dessus, pendant des gilets, voilà. Roman vrai, c'est publié chez l'Harmattan.
Voilà. Hein?
Puis je vous présente Monique à la technique, sans laquelle rien ne serait possible, voilà. Hein, d'accord. Alors, je dédie cette émission au maire de Pantin, je ne sais pas si vous avez suivi, qui est vous. Alors, j'ai vu que vous étiez une tenante de l'écriture inclusive, parce que vous écrivez auteur avec un E et producteur avec un E dans le livre.
Oui, je ne suis pas acharnée d'accord. Sur l'écriture inclusive, mais bon, je la
lui,
pratique.
Il a fait très fort, il a fait une demande officielle pour transformer Pantin en Pantine.
Ah oui, j'ai entendu ça.
C'est le crétin absolu.
Je trouvais absolument
alors,
absurde.
moi, ce qui m'a fait rire, c'est que les réseaux sociaux, là, pour une fois, m'ont fait rire. Ils ont fait une demande pour que Jean Lépin devienne Jean Lé.
Oui, ça engendre. J'ai vu Tintin aussi, Tintin au Pérou.
Ça allait bien, ça là. Ben oui, c'est bien, mais Jean Lépine, moi, j'ai trouvé que c'était excellent. Mais voilà. Donc, c'est le temps des gilets, pas le gilet jaune, d'ailleurs, Roman vrai. Bien sûr, on pense à Aragon. C'est un peu truqué parce que je pense à Aragon parce que j'ai lu le dernier. Vous aviez écrit sur Aragon.
Oui, j'ai fait ma thèse en fait de doctorat sur Aragon. J'ai travaillé de longues années avec Aragon sur Aragon. Voilà, et c'est effectivement Roman vrai, c'est effectivement un clin d'œil au mentir vrai d'Aragon.
Mentir vrai d'Aragon.
Ouais.
Voilà, moi, il y a un ami qui est venu pas il y a pas longtemps, Valère Staraselski. Qui a chez l'Harmattan, qui a publié trois livres sur Aragon aussi. Hein. Qu'est-ce qu'on peut encore apporter à Aragon quand on travaille sur Aragon?
Qu'est-ce qu'on peut lui apporter?
Oui, qu'est-ce qu'on peut trouver encore? Qu'est-ce qu'il y a encore à dire qu'on n'aurait pas dit?
Moi, je pense que toute nouvelle lecture est un apport. Hein. Chacun apportant son œil, sa sensibilité, sa génération, ses préoccupations par rapport à Aragon. Et puis, moi, quand j'ai travaillé, par exemple, j'ai beaucoup travaillé sur Aurélien. Et il y avait encore, à ce moment-là, il y en a peut-être un peu moins maintenant, mais il y avait encore des mystères. C'est-à-dire, quel était le pilotis réel de Bérénice? Enfin, ça a beaucoup fait causer, puisque Aragon avait refusé de donner... la personne dont il s'était inspiré, la femme qui l'avait inspiré pour Bérénice. Et j'étais amenée à rencontrer un cinéaste qui avait fait une émission sur Aragon, qui m'a dit mais moi j'étais là quand il l'a dit, il me l'a dit qui c'était, enfin etc. Enfin voilà, donc j'avais fait ça sur le masque de l'inconnu de la scène. Il y avait des choses encore à découvrir. Enfin il y a des clés, les clés des romans sont toujours presque infiniment étudiable, voilà. Et moi, je suis allée, je suis très intéressée par le rapport de la littérature au réel, en fait, comment la littérature puise dans le réel pour devenir littérature. Mmh. Et pour, moi, je me suis déplacée dans la Drôme parce que Aurélien a été écrit entre 42 et 44, donc pendant la Résistance et pendant qu'Aragon était clandestin. Et donc j'ai fait tous les lieux de la clandestinité de Nice en remontant vers la Drôme, Lyon, en passant par Lyon, puis la Drôme. Et j'ai découvert, j'ai cherché les lieux où avait été écrit le roman. Voilà.
L'Humanité a publié et ça fait 40 ans qu'il est mort, Aragon, c'est ça, si je ne m'abuse.
82.
Oui, corrigez-moi. C'est à 40 ans.
Oui, c'est ça.
L'Humanité a fait tout un cahier, bien fait, où je vous disais hors antenne, on commence à dire des choses qu'on avait laissées un peu sous silence ou à mezza voce depuis longtemps, son homosexualité, très, très rapidement avouée après la mort d'Elsa. Il n'y a quasiment pas de transition.
Oui.
Alors pour la morale populaire, elle peut en prendre un coup. Oui, ça peut être choquant pour certains, puisqu'il vivait quand même sur un fonds de commerce. Hein. Les yeux d'Elsa, l'amour d'Elsa, etc. Et quand on arrive comme ça, il n'est pas sûr que tout le monde arrive à admettre ce brusque...
Disons que c'était un grand amoureux.
Oui, bien sûr, c'est peut-être ça aussi. Dire aussi qu'il a été stalinien comme tous les gens du PC. Toute une période, il faut l'avouer. Hein. Et puis il y a une phrase qu'ils ont mis là, qui apparaît, alors qui dit, ou Aragon aurait dit, j'ai raté ma vie.
C'était, je pense, un pessimiste. Mmh. Il avait un versant très très sombre, très noir.
Le roman inachevé est terrifiant.
Oui,
hein, au niveau de la défaite, le roman inachevé.
Oui, tout à fait. Moi, j'avais fait ma thèse. D'ailleurs, ça s'intitulait Modernité et tragique chez Aragon. Parce que je pense que c'est un tragique aussi.
D'ailleurs, comme il en a toujours rajouté à la fin de sa vie, il finit avec un masque sur son visage.
Oui. Hein? Il veut qu'il cache la vieillesse.
C'est un tragique outrancier aussi, il faut bien dire. Il en a toujours énormément rajouté. Aussi bien dans les poèmes de la Résistance, etc.
Oui, mais je pense que c'est un tragique profondément sincère aussi. Hein,
pas antagoniste. C'est pas antinomiste. Il y a un deuxième, c'est Alain Jouffroy, qui a écrit le roman Vécu.
Oui.
Vous saviez ça
ou pas?
D'accord,
oui.
Alors, est-ce que c'est un roman vécu, votre Le Temps des Gilets, ou pas?
C'est un roman en partie vécu, oui. Il y a une dimension fictionnelle que j'ai voulu glisser par respect pour les gens qui ont témoigné, et puis parce que c'est ma façon d'écrire, parce que j'ai besoin d'une part de fiction pour que ça fonctionne, pour que mon écriture fonctionne. Donc voilà, il y a une part de fiction, mais c'est un roman vécu aussi, oui.
Vous étiez dès le départ avec les Gilets jaunes
Oui, je suis descendue, je suis allée le 17 novembre 2018 sur les Champs-Élysées, entendant les différents échos disant qu'il y avait une mobilisation ce jour-là et qu'il fallait porter un gilet jaune. J'en avais pas parce que j'avais pas de voiture à Paris. J'ai toujours pas de voiture à Paris. Donc je me suis dit, j'y vais quand même. Les Champs-Élysées, on verra bien. Et puis je me suis dit, j'achèterai sans doute un gilet jaune sur place. Il y aura bien des ventes de gilets jaunes. Enfin, j'avais en tête un peu les anciennes manifestations avec des gens qui vendaient des choses. Et finalement, effectivement, il y avait un petit monsieur, comme je le raconte, il y avait un petit monsieur qui avait son cabas et qui avait des gilets jaunes et des sifflets dedans, et donc je lui ai acheté un gilet. Et voilà, donc j'étais, oui.
Et vous venez de Bretagne? Des bonnets rouges.
Oui. Voilà. Oui, enfin, moi, je suis à Paris depuis un moment, mais je suis aussi très liée à la Bretagne, où je retourne très, très régulièrement, et j'ai une résidence, oui.
Parce que vous dites, à un moment donné, dans la rue, il y avait outre des... Il y avait des drapeaux noirs, il n'y avait pas d'autres drapeaux, je cite dans le texte, il n'y avait pas d'autres drapeaux, il y avait des drapeaux noirs, mais on a vu apparaître des drapeaux français, ce qui est... on va pouvoir en parler.
Des drapeaux bretons aussi,
oui,
il y en a toujours eu.
Les drapeaux bretons, c'est un mouvement aussi extrêmement composite, le mouvement de libération de la Bretagne.
Oui.
Quand on en connaît, je ne sais pas si vous en connaissez, l'histoire aussi, il y a quoi. Il y a un pan qui n'est pas très, très glorieux. Hein.
Non, il y a un pan qui n'est pas glorieux, effectivement.
Hein, qui est quand même...
comme dans le mouvement, par exemple, irlandais aussi.
Comme dans le mouvement irlandais, bien sûr.
Il y a une pente glissante qui fait que quelquefois les gens sont tentés de s'allier avec les ennemis de leurs ennemis, quoi. Voilà, c'est un peu ça. Et puis, il y a une réaction contre le jacobinisme.
Contre le jacobinisme, français. Mais ça n'empêche pas qu'il y a tout un port du.
Mais il y a aussi, on cite un peu moins, alors c'est peut-être que je trouve un peu déséquilibré. C'est que maintenant un peu plus, mais pendant longtemps, on s'est focalisé sur cette collaboration de certaines franges des autonomistes bretons. On cite un peu moins quand même le fait que tous les marins de l'île de Sein soient partis. Dès l'appel du général de Gaulle, décider de partir en Angleterre. Quoi.
Mais on sait aussi que ça, c'est les années 40-45. Oui. Ça, on le sait, c'est-à-dire qu'il y a ce groupement breton qui a été une des formations ouvertement nazie en France.
Ah oui.
En France, là. On sait qu'il y a les gens de l'île de Sein, mais lorsque le mouvement renaît dans les années 60, vous me corrigez, hein, 70-80, BZH, là, il y a toute une frange qui est une frange d'extrême droite.
Là, je connais moins ces mouvements de renaissance. Bon, je pense qu'il y a, une sorte de filiation, effectivement, mais moi, mon père a milité pour la Bretagne, mais pas dans ces mouvements d'extrême droite, mais dans le MOB, qui était un mouvement pour l'organisation de la Bretagne, le MOB, qui était assez pluraliste. Hein, voilà, c'était pas que des gens de gauche. Mon père, par ailleurs, était syndicaliste et sympathisant communiste. Mais voilà, donc il s'est trouvé effectivement avec des gens divers. Effectivement, il y a des liens avec le mouvement des Gilets jaunes. C'est-à-dire, il y a une fraternité qui se crée sur une certaine problématique pour un combat qui ne correspond pas forcément à d'autres options idéologiques. Quoi. Voilà.
Bah, ça va être le thème de l'émission. Hein, et surtout qu'on va pas pouvoir faire l'économie de deux crapules qui viennent de sortir un numéro de Front Populaire. Je ne sais pas si vous l'avez vu, c'est la fin de l'Occident. Interrogation, où Houellebecq, on ferait la rencontre. Vous l'avez lu ou pas?
Alors,
c'est une catastrophe. Hein.
Non, j'en ai lu que des extraits. Je l'ai cherché là ce week-end, mais je ne l'ai pas trouvé ni en librairie, ni dans les bibliothèques municipales autour dans mon quartier. Donc voilà. Mais j'en ai lu des extraits.
Non seulement,
et je connais un peu les deux, évidemment.
Enfin, non seulement c'est minable. C'est extrêmement minable au niveau du propos. C'est-à-dire, on est au bistrot, mais ce sont des gens qui ont peur. Qui ont peur. On sait très bien que le fascisme vient aussi de la peur, hein, voilà.
Oui, moi je pense qu'il y a une grande, quelque chose de paranoïaque presque.
Bien sûr. Et moi j'ai tourné autour du kiosque depuis, ça fait 15 jours que je tourne autour du kiosque en me disant est-ce que tu donnes 14 euros à là. J'ai tenu à le faire. J'engage les gens, après c'est fini, hein, à lire, ils vont comprendre plein de choses, comment on arrive, qu'est-ce qui s'est passé dans les années 30, comment des gens venant des mouvements socialistes, des mouvements du socialisme libertaire, se sont retrouvés dans la collaboration. C'est exactement ça. J'ai fait une émission on revient à votre livre après, premier juré, hein. J'ai fait une émission il y a 10 ans, avec un historien spécialiste de l'extrême droite, Jean-Paul Gaultier. Pas le couturier, hein, un historien. Et j'y avais dit comme ça, tout sera changé lorsque l'extrême droite va trouver des intellectuels ou des pseudo-intellectuels. Et il m'a dit, oui, je suis d'accord avec toi, avec vous. J'ai dit, mais qui tu vois? Il y a 10 ans de ça, il me dit Michel Onfray.
Ah oui.
Voilà. C'est-à-dire que tout était déjà en germe, là, dans le virage. Et effectivement, le dénommé Houellebecq, on va y revenir tout à l'heure, qu'il a failli avoir le Nobel, hein, il a failli avoir le Nobel il n'y a pas longtemps. Voilà, c'est quelqu'un qui est raciste ouvertement, qui est de droite ouvertement, qui a une inflation sur lui.
Ouais, moi, je l'ai surtout abordé sur un plan littéraire. Enfin, voilà, j'ai lu Les particules élémentaires, qui était son premier grand succès, là. Et j'avoue que, enfin, très honnêtement, hein, sans chercher au-delà, j'ai jamais accroché, voilà, à ces livres parce que je ne trouve pas qu'il y ait d'écriture, quoi. Je trouve qu'il n'y a pas de travail sur l'écriture. Pour moi, la littérature, pour moi, c'est quand même un travail sur l'écriture. Voilà, nous sommes des artisans des mots, du langage, et je crois que c'est ça notre devoir finalement, c'est de capter la réalité à travers une sensibilité et par le langage, qui est un outil complexe. Donc moi, j'avoue, j'accroche pas du tout à ces textes. Par ailleurs, c'était amusant parce que les particules élémentaires, par contre, ça portait sur, je sais pas si vous vous souvenez, sur un lieu particulier que moi, je fréquentais depuis longtemps. comme Houellebecq. Mmh. Voilà. Et par contre, donc je voyais très bien, j'ai très bien vu de qui il parlait, de quel lieu il parlait, j'ai reconnu des silhouettes de gens, et c'était très méchant. C'était très méchant, parce que c'est un lieu qui est tout à fait critiquable, hein, mmh. mais c'est un lieu aussi qui a des aspects extrêmement intéressants et généreux mmh. et humanistes. Mmh. Voilà. Et lui, il n'a pris que le côté petit.
Il est petit et étroit.
Méchant.
C'est exactement ça.
Et donc, moi, ça me. Et d'ailleurs, il a perdu en procès contre le lieu qui l'a attaqué. Hein.
Vous savez que Libération, il y a une quinzaine d'années, et ça, c'est rare, hyper rare, hyper rare, a consacré quasiment un numéro spécial à la poésie de Houellebecq, qui est une poésie catastrophique, excusez-moi le terme, de merde. C'est étroit, petit, mesquin, mais ça veut dire le signe du temps, comment Libération peut trouver un poète, et ce poète, c'est Houellebecq. Là, il y a une plainte de la mosquée de Paris sur son entretien qu'il a fait avec Onfray, là. La mosquée a retiré sa plainte, et Onfray a été se justifier auprès du Figaro. C'est-à-dire qu'on est totalement dans la droite, on est dans l'extrême droite et dans la droite avouée, quoi. C'est un basculement qui est là. Hein? Alors, le temps des gilets, voilà. En fait, donc, on a plein de choses à se dire, plein à se dire sur ce. Voilà. Alors, dès le départ, il faut que je retrouve la. Parce qu'on ne sera pas d'accord sur un moment donné, on ne va pas être d'accord. C'est comme ça. C'est sur tout l'œcuménisme. J'appelle ça l'œcuménisme. Hein, comment vous toutes les sensibilités que vous acceptez sont réunies. C'est-à-dire, j'ai un passage, là. Alors, les flics déferlèrent sur eux, matraquent au poing les poursuivants dans les rues, une plongée dans l'action dont il se souviendra. Leur manif n'avait de sauvage que son caractère de liberté. Et c'est là que ça arrive. Le baptême du feu se poursuivra sur les champs où il tombe sur un jeune de son âge avec un drapeau monarchiste, lui qui brandit un drapeau noir. Ils descendent ensemble vers l'Élysée, sont refoulés par des charges, remontent vers l'étoile, puis repartent tranquillement vers le palais présidentiel où le peuple voudrait faire entendre sa colère et réclamer la justice sociale. Des mouvements de foule en gazage, une fraternité inattendue naît entre eux. « Sale anard !» crie l'un. « Sale monarchiste !» réplique l'autre en souriant. Voilà. Bon, c'est-à-dire que pour vous, cette fraternisation est possible. Elle n'est pas regrettable.
C'est que, déjà, elle a eu lieu. Elle a eu lieu. Elle continue d'avoir lieu, en partie. C'est-à-dire que, moi, j'ai une histoire de manif de gauche pour dire vite. Bon, je vais, moi, avec mes propres motivations, anticapitaliste, revendicative, sociale, pour plus de démocratie, etc. Et puis anti-taxe surtout, très concrètement, quoi, hein, parce que je vis de moins en moins bien aussi, pourtant j'appartiens à ce qu'on peut appeler la classe moyenne. Bon, donc j'y vais ce jour-là, je vais dans la rue, je retourne le 8 jours après, etc., etc., de semaine en semaine, et je vais m'apercevoir, en fait, je vais petit à petit être rencontré, enfin des gens, avec un grand étonnement hein, au départ, hein, peut-être de la naïveté justement de ma part, qui ne sont pas du tout qui viennent pas du tout du même bord que moi, qui viennent même d'une certaine extrême droite. C'est pas pour éviter le mot, mais j'ai découvert aussi petit à petit en discutant avec les gens que ce qu'on appelle extrême droite était divers. Voilà. Et donc c'est pour ça que je sais pas trop comment les nommer, c'est-à-dire que c'est le front, c'est pas des gens du Front National qui étaient là, mais il y avait sûrement qui avaient voté Front National, mais il y en a qui ont une autre histoire à la limite plus extrême mais plus populiste.
Mais c'est pas parce que voilà. c'est que c'est justifiable.
Ah non,
c'est
mais je voulais relater cette réalité vécue. Et dire comment ça s'était passé, quoi. Et voilà. Et sur les ronds-points, c'est pareil. J'ai eu des récits, donc, de gens qui, se sont trouvés avec des gens qui venaient d'une toute autre obédience. Et pourtant, c'est amusant parce que la manif de samedi, là, dans la manif de samedi à laquelle j'étais, d'accord. Oui, aussi, il y avait un journaliste de France Info qui interrogeait, Et moi, je me suis dit, à un moment donné, bon, ça y est, ils nous ressortent encore toujours les mêmes choses, les mêmes formulations, quoi. Est-ce que ça vous gêne pas de défiler avec des gens qui sont d'extrême droite, etc. Mais c'est, on se trouve au même endroit et on lutte pour la même chose à un moment donné. Voilà. On peut s'interroger comment et pourquoi. C'est aussi pour ça que j'écris le livre. Mais c'est un fait. On est au même endroit, on s'oppose. Et moi, ça m'a sidéré les premières fois où j'entendais les gens crier avec des slogans anti-anticapitalistes. Le slogan anti-anti-anticapitaliste, c'est un slogan qui est scandé par tout le monde dans les cortèges. Tout le monde. Voilà.
Oui, mais s'il y a confusion, s'il y a confusion et danger idéologique, on peut pas y adhérer. Vous parlez de Nuit debout dans votre livre à un moment donné. Vous vous souvenez, oui. Vous parlez de Nuit debout. Un jour, j'ai traversé la place de la République qui sentait pas très bon parce que les gens chiaient, pissaient à droite. C'était comme ça. Et un jeune type m'a tendu un tract. J'ai lu le tract et ça commençait par un discours assez sympathique. Et ça finissait par du Alain Soral, le mec ouvertement d'extrême droite. Et le type se faisait rouler dans la boue parce qu'il n'avait pas un don d'analyse. Mais si on vient de la gauche, on vient de ces mouvements-là, on doit pouvoir analyser le danger. Écoutez, après on écoute un peu de musique et on
oui,
bouge dedans,
oui, d'accord.
Je vais pas être au beau temps du situationnisme. Vous citez le situationnisme,
oui,
là.
Oui, bien sûr,
il y avait toute une mode qui faisait que. On prenait des films à deux balles, des films porno à deux balles, souvent des films asiatiques, comme ça, et puis on les détournait. Oui. On les détournait, comme ça. Il y en avait un qui était un film phare de l'époque. On voyait un étudiant courir dans la rue, il était poursuivi par un CRS. Le CRS lui fout un coup de matraque. Bon, ben voilà. Et le soir même, il y a une espèce d'orgie où partout, c'est dans une ville de province, qui se déroule, et l'étudiant, il est à poil. Qui c'est qui est derrière lui avec autre chose que sa matraque? C'est le CRS qui a tapé dessus. Bon, la métaphore est un peu osée, un peu facile, mais c'est, voilà, c'est pas possible. Il y a des choses qui ne sont pas possibles. On va y revenir, d'accord?
Il y a des choses qui sont réelles.
Voilà. Ah, oui, mais, bien sûr. Voilà. Oui, mais on va plonger dedans. Le fascisme est réel.
Les mouvements populaires sont
fascistes. Ce qui s'est passé ce matin au Brésil.
J'ai entendu ce midi. Là,
c'est intéressant. Vous n'avez pas vu les images?
Non, je n'ai pas vu encore. Non, voilà. J'ai pas vu.
On va y revenir. Oui. Merci, Monique.
The very thought of you and I forget to do the very ordinary things that everyone ought to do. I am living in a kind of daydream. I'm happy as a queen and foolish, though it may seem to me. The mere idea of you, the longing here for you, you will never know how slow the moments go until just a thought of you, the very thought. thought of you, my
fameuse notion de peuple, parce que tout le monde se gargarise avec ce mot depuis quelque temps. Ben, si vous écoutez Marine Le Pen, il y a du peuple par là, Mélenchon, il y a du peuple, il y a du peuple partout.
Oui,
qu'est-ce que ça veut dire le peuple?
C'est le peuple, c'est oui les gens qui vivent dans un pays, je pense, et qui travaillent et qui travaillent pas quelquefois, mais et qui cherchent à vivre, voilà, de leur des moyens.
Vous avez vu les images du Brésil ce matin là?
Je n'ai pas encore vu les images. J'ai entendu à la radio qu'il y avait eu. C'est une partie du peuple.
Voilà.
Mais oui, mais je pense qu'il y a un peu ce qu'on disait hors antenne. Il y a un populisme de gauche et un populisme de droite. Et pour moi, populiste, c'est dans le sens que lui donne Mélenchon, enfin, quand il fait référence à, je ne sais plus quel est le nom de la philosophe là, qui vient d'Amérique du Sud, qui a aidé à l'élaboration du programme. C'est la préoccupation, des gens, quoi. Enfin, pour les gens, voilà. Et à un moment donné, on peut juger de son point de vue qu'une préoccupation une façon d'agir n'est pas glorieuse, mais elle est là, quoi. Elle est là. Hein. Je veux dire, la démocratie, c'est considérer que tout ce que veulent les gens, enfin tout ce à quoi ils aspirent, tout ce dont ils ont besoin aussi. Hein. Donc, ce qu'on disait dans la manifestation encore la samedi dernier, il y a deux jours, donc c'était, on répondait à un journaliste qui nous interrogeait. On disait mais quand on n'arrive pas à la moitié du mois, quand on est à découvrir la moitié du mois, qu'on fait attention en ayant travaillé toute sa vie, et pourtant moi, donc, j'étais prof, donc j'étais partie à la classe moyenne, mais j'en suis arrivée à faire attention à ce que j'achète pour manger, hein, parce que j'ai encore des filles à charge. Bon, quand je ne peux plus rien m'offrir, enfin je veux dire en dehors du loyer, des charges, etc., rien. Pratiquement rien, quoi. Sauf un bouquin, parce que ça, je craque quand même pour les livres. Enfin, bon, c'est quand même... là, il y a des qu'on soit de gauche ou de droite, on a les mêmes problèmes.
Je ne serais pas prêt à m'allier avec quelqu'un qui va me matraquer demain. Je veux dire que les gens qui ont essayé de s'en prendre à l'Élysée, vous en parlez dans votre livre, là, il y avait des bons fachos à l'intérieur. Un facho demeure un facho. On peut pas s'entendre avec un facho, c'est pas pareil, c'est pas possible.
Il y avait un mélange, hein, parce que les gilets jaunes, le
mouvement des
gilets jaunes, les gens sont venus spontanément, sont venus par les réseaux sociaux, sans trop savoir. Moi, je suis venue, j'ai entendu ça à la radio, il y a des amis qui ont relayé, les gens sont venus assez spontanément, ils savaient pas ce qu'ils trouveraient. Et ce qu'on a trouvé dans la rue, c'est des tas de gens qui apparemment étaient venus comme nous, mais on savait pas exactement pour quelle raison, quelle raison était commune, mais on s'est trouvé ensemble dans la rue à dire voilà, ça peut plus durer. On est étranglé par les taxes, on peut plus vivre de nos salaires ou de nos retraites. On en a marre de ce gouvernement. Macron tient un discours complètement hypocrite nous on l'appelle d'extrême centre.
Mais terriblement le rôle de l'intellectuel ou de l'écrivain, justement, c'est de pouvoir éclairer tout ça.
Oui.
Voilà, nos deux crétins qui sont là, Houellebecq et Onfray, c'est vraiment l'exemple même de gens qui vont vers une forme de populisme. Avec tout ce que ça comporte, dans le populisme, il y a une forme d'aristocratie au-dessus. Faut pas croire. Bah oui, forcément.
Je sais pas ce que vous entendez par aristocratie
Ils vont se faire diriger. Ils vont se faire diriger. Pour ça, le terme de démocratie directe est un terme qui est très ambigu aussi.
C'est très complexe pour savoir combien de ça... Mais enfin, il y avait cette revendication, en tout cas, de plus de démocratie, de ne pas déléguer le pouvoir à des gens qui vont l'exercer comme ils veulent, en fait, pendant un mandat, et puis d'avoir un droit de regard, surtout que ce sont des privilégiés. Voilà, ce sont des privilégiés. Et les scandales se multiplient, donc il faut quand même qu'on ait... Que la démocratie évolue. On ne peut plus rester... Et c'est ça qui était revendiqué dans les cortèges. C'était d'abord les taxes... contre les taxes, mais aussi très très vite sont apparues des grandes banderoles sur le RIC. Bon, et donc on a discuté de la démocratie directe. Il y a eu une remise en question, une analyse par exemple du rôle des banques, du système, sur quoi repose notre société, sur la dette, sur le système bancaire, etc. Et ça, c'était quand même des analyses partagées par des gens d'obédience très différentes. C'est-à-dire que moi, j'ai découvert, c'est des questions que je pose, les questions que vous me posez, je n'en ai pas forcément j'ai pas forcément une réponse dogmatique à vous donner. Je m'interroge dans le livre, je raconte, je veux raconter, je veux témoigner. Je témoigne d'une fraternité réelle dans la rue. Dans la rue, c'est-à-dire marcher ensemble, se battre contre ensemble, et puis après, la répression nous a soudés. La répression nous a soudés parce qu'il fallait se défendre contre les gaz lacrymogènes, contre les LBD, contre les grenades, etc. Et ça, effectivement, il y a des gens qui sont allés, entre guillemets, en première ligne, qui ont répondu. On n'était pas, ils n'étaient pas en train de se trier entre eux, parce qu'il fallait faire face, ils ne se triaient pas.
Moi, je vais vous raconter une histoire de gilets jaunes. Les gens sont dans un autobus au matin. Dans cet autobus, c'est un autobus qui part de la Défense, le dimanche matin, qui est peuplé de gens noirs qui vont nettoyer les bureaux de la Défense. Là, à Nanterre, plutôt, l'autobus est bloqué par des gilets jaunes qui sont là. On descend, on descend là, et on va au bas, il y a une brasserie, on va à la brasserie, et là, nettement, les gilets jaunes qui sont là sont séparés en deux parties. Des gens, je vais vous dire ce que c'était. Il y avait un garagiste et un pharmacien d'un côté, donc pas des nécessiteux, et d'autres à l'autre côté des gens qui étaient beaucoup plus une infirmière ou des gens comme ça, des gens plus en difficulté. Et au milieu de cette place, il y avait des travaux. Et là, c'est la mystique de la rue, comme vous l'appelez, et c'est l'humour aussi. Il y avait deux Africains qui avaient effectivement des casques et des gilets jaunes qui faisaient des trous avec des là. Et on peut dire que celui que le pharmacien et le garagiste n'avaient strictement rien à faire de ces pauvres types qui faisaient des trous au milieu de la rue. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui n'est pas conciliable. Dans votre œcuménisme, à un moment donné, vous essayez de rameuter les francs-maçons. Vous le faites ? Oui, vous avez la parole. C'est transclasse, c'est-à-dire, est-ce que vous reconnaissez la lutte de classe ? Est-ce que les gilets jaunes reconnaissent la lutte de classe ou pas ?
Alors, moi, gilet jaune et avec mon histoire, je reconnais tout à fait la lutte de classe. C'est tout ce que je peux vous répondre. Moi, je ne peux pas parler au nom de l'ensemble des gilets jaunes, bien sûr. Y en a beaucoup qui reconnaissent, bien sûr, qui parlent de lutte de classe. Beaucoup, beaucoup. Je pense que on s'est interrogé sur les pourcentages, après, ou moi, à un moment donné, de quoi était composé le mouvement, etc. Bon. Moi, j'ai tendance à dire qu'il y aurait, il y a deux tiers de qui viennent de la gauche et puis un tiers de la droite, quoi. Bon, après, ça peut être contestable. C'est dur de compter. Mais enfin, en gros, je pense que c'est ça. Alors, pourquoi j'ai oublié, du coup, la question à laquelle je voulais réagir?
La lutte de classe et les francs-maçons.
Oui, ah oui, les francs-maçons. Alors, bon, moi, je parle des francs-maçons parce que je fais témoigner un camarade gilet jaune qui est passé dans son histoire personnelle par la franc-maçonnerie. Voilà. Donc, voilà, okay. Moi, j'ai pris son témoignage et je l'ai pris en entier. Et ça me semblait intéressant, justement, de le faire témoigner parce que dans le mouvement gilet jaune, il y a beaucoup de slogans un peu rapide et un peu étroit et bête sur et les francs-maçons ils sont tous c'est tous des pourris les francs-maçons c'est on a l'impression que c'est les francs-maçons qui mènent le monde et qui sont tous au pouvoir etc. Bon, moi je suis pas spécialiste de la franc-maçonnerie mais je me souviens quand même dans l'histoire voilà que la franc-maçonnerie a aussi a mis en avant des valeurs enfin et que je sais qu'il y a des gens qui adhèrent enfin rentrent dans la franc-maçonnerie humblement en adhérant à certaines valeurs humanistes voilà et d'égalité et de fraternité etc. Donc j'étais même dans un premier temps un peu étonnée de ces slogans répétitifs etc. qui étaient un peu qui étaient étroits qui étaient même pas à discuter c'était de l'ordre de la répétition et donc ça m'intéressait il se trouve que voilà un de mes camarades était passé par l'information donc j'en témoigne d'ailleurs je le laisse parler là-dessus et puis à ce moment-là je lisais donc des textes de Louise Michel. Et Louise, je tombe pas vraiment aussi au moment où je travaillais, donc je tombe sur un passage où Louise Michel parle de l'action des francs-maçons lors de la Commune. Voilà. Et donc, je trouvais ça intéressant de le relater aussi.
Alain Ruscio,
pour aller à l'encontre d'un poncif qu'on entend dans le mouvement. D'accord. Pour aller à l'encontre d'un poncif.
Alain Ruscio, qui est historien, qui a fait un livre, qui est venu ici il y a deux mois, je crois, qui a fait un livre Arago et le colonialisme, un livre très très intéressant, a fait un très bel article sur la déportation de Louise Michel en Nouvelle-Calédonie. Elle est avec d'autres communards, et qu'est-ce qui se passe? Il y a là des indigènes. Déjà, ils sont pas blancs, ils sont mal foutus, ils sont pas peignés, etc. Et ces communards, les refusent, et la seule qui vient défendre les indigènes, c'est Louise Michel. Mais on est en plein dans le sujet, c'est-à-dire que moi, je pourrais pas manifester avec des homophobes, je pourrais pas manifester avec des racistes, je ne pourrais pas, oui, bien sûr, etc., etc.
Oui, mais le paradoxe et ce qui montre que la réalité, elle est beaucoup plus complexe que souvent que l'idéologie et la théorie qui ont tendance finalement à... C'est utile aussi, hein. Je ne dis pas que c'est pas utile, mais théoriser, abstraire, c'est aussi d'une certaine façon simplifier le réel. J'ai mis roman vrai parce que le roman, justement, pour moi, a cette vertu de mettre en scène la complexité de la réalité, la complexité des humains. Et par exemple, un des paradoxes, vous dites, moi je ne manifesterai pas avec des homophobes, c'est que ce que vous considérez, mais qu'ils le sont en partie, je le sais, homophobes, eux manifestent avec des homosexuels qui s'affichent et qui s'affirment, hein, qui se sont affirmés dans les cortèges gilets jaunes. Il y avait quelques figures, hein, qui s'affirmaient très très théâtralement d'ailleurs, hein, et qui étaient copains comme cochons avec les autres. Et c'est cette réalité là, moi, que j'ai vécue et qui m'interroge aussi. Qui m'intéresse et qui m'interroge. Il y avait une fraternité entre des gens qui, théoriquement, idéologiquement, étaient opposés. Alors, ça marchait, comme on disait tout à l'heure, parce que ça fonctionnait parce que on ne faisait que, si on veut, hein, marcher ensemble, défiler, manifester ensemble. C'est vrai que ça devient beaucoup plus compliqué quand on se met à parler ensemble. Et il y a pas eu toujours beaucoup, je sais pas quel degré quelle quantité de dialogue. Moi, j'ai dialogué, et Dieu sait si quelquefois ça m'a posé problème. Hein. Je veux dire, je me suis engueulée.
Vous avez un personnage qui est ancien flic, qui est d'extrême droite.
Oui.
Voilà.
Ah oui.
Et vous arrivez à parler avec quelqu'un oui. d'extrême droite, vous arrivez.
Oui, voilà. Oui, parce que ce quelqu'un d'extrême droite, humainement, c'est...
Quelqu'un d'extrême droite
c'est
quelqu'un qui sera antisémite.
Non, c'est quelqu'un... Attendez, laissez-moi finir.
Mais je vous en
prie. Ce quelqu'un d'extrême droite, humainement et réellement, c'est quelqu'un qui est généreux, qui se bat pour la liberté, qui se bat pour la démocratie, qui croit dur, qui est dévoué à la cause, notamment à la cause des Gilets jaunes. Enfin, voilà, c'est quelqu'un qui lit Aragon. C'est quelqu'un qui écoute Ferré, Aragon et Brels et sans arrêt.
C'est quelqu'un de très confus, le vôtre, là.
Ben, c'est quelqu'un Non, c'est quelqu'un, moi, je dirais que c'est quelqu'un de complexe. Et c'est quelqu'un de complexe. Et il y a beaucoup d'individus comme ça, et moi, c'est ce que j'ai découvert, justement, qui sont complexes. Moi, c'est cette réalité. Je pense que la littérature, elle est là justement pour témoigner de cette complexité.
Vous citez Julius Evola dans votre... Vous vous souvenez, il y a le mot Julius Evola. Julius Evola, c'est quelqu'un, dans ses parenthèses, quelqu'un qui est revendiqué aussi bien par des gens, disons, assez sympathiques, mais aussi d'extrême droite. Hein. C'est quelqu'un qui vient du futurisme et qui a été sérieusement revendiqué par l'extrême droite.
Hein. Il me semble que je le cite parce qu'à un moment donné, Macron fait une citation bizarre. Voilà. Et... Moi, je me suis dit, alors je l'ai plus exactement en tête sa citation, mais c'était assez étrange comme citation. Je me suis dit, mais c'est bizarre que c'est quand même que quelqu'un, qu'un président de la République, enfin, que se veut d'une certaine, enfin, avoir quelques lettres, disons au moins en théâtre, je ne sais pas. Enfin, et donc j'ai cherché d'où ça pouvait venir, et j'ai retrouvé en fait d'où ça venait, et ça venait en partie de Julius Evola, voilà. C'est pour ça que je cite, hein, c'est tout. Hein. J'ai pas du tout de. Je ne me réfère. Enfin, je ne me revendique ni de lui, ni de.
Avant qu'on écoute un peu de musique, là, je vais vous lire un tract qu'on m'a envoyé. C'est mon ami Marie-Odile Guintanquin qui fouine des tracts, qui me trouve des merveilles. Il me trouve des merveilles. Donc, vous allez l'identifier avec moi sans aucun problème. C'est pour montrer que par rapport aux deux crétins, et je réitère, Houellebecq et Onfray, ce que c'est qu'une pensée, ce que c'est qu'un style. Hein? Voilà. Ça s'intitule Code d'alerte. Le résultat des élections ne nous préoccupe réellement que dans la mesure où, pour la première fois, siège au Palais Bourbon plus de 50 députés, qu'il n'y a aucune exagération à qualifier de fasciste. Soutenu par toute la presse nazie de Paris, un ramassis de bistrots, de lutteurs, de foires, de voyous, d'épiceries, de bouchers habitués à mettre le pouce à la balance et à circuler dans le sang, s'apprête à nous gouverner avec l'aide de quelques microcéphales de la faculté de droit. Ces voleurs patentés n'en sont plus encore qu'à crier aux voleurs selon une technique éprouvée. Déjà, ils prétendent instaurer la discrimination raciale des Français et ressusciter l'étoile jaune. Malgré le courage dont a fait preuve lançant le député Bokanovski, la formule « défendre la République » n'a pas de sens politique pour nous, surréaliste, ni même à proprement parler de contenu moral. Il faudrait que le système parlementaire fut effectivement l'incarnation de la République pour que nous en discutions. Mais sur le terrain spécifique où nous nous situons, nous jugeons quand même l'ère de la démocratie bourgeoise moins irrespirable que celui de ces arrière-boutiques où se cultive la nostalgie des baignoires du flic et des fours crématoires. Les intérêts qu'il faut bien nommer de l'esprit ne s'incarnent pas pour nous dans une classe sociale ou dans une forme de gouvernement. Il ne s'ensuit pas que nous devions contempler indifférents les massacres de la population d'Afrique du Nord par une soldatesse au gage des bailleurs de fonds de Poujadochfov. Il y a en effet d'ores et déjà un domaine où les exigences immédiates de nos néo-pétinistes sont intolérables, celui de l'Algérie. Demain, si on y prend garde, seront les rues de Paris qu'ils transformeront en terrain de chasse à l'homme. Nous demandons donc au comité d'action des intellectuels contre la répression en Afrique du Nord, qui selon les paroles même de Jean Cassou, constitue le plus important rassemblement qu'on ait vu depuis 1936, de déléguer 110 distinction d'opinion politique ou autre, un comité d'action contre le fascisme et le colonialisme, d'organiser un boycottage systématique de la finance poujadiste et de ne pas attendre que la violence la plus basse et la plus cynique l'emporte pour mettre en garde une opinion publique complètement désorientée. Ça vous inspire ?
Ça m'inspire qu'il est question du système parlementaire.
Oui, voilà. 56, et c'est signé André Breton, Mandiargue, et gens comme ça.
Ouais.
Voilà.
Ah oui ?
Mais ça, au moins, c'est clair. Au moins, ils ont une position claire.
Ah ben, ils ont une position très extrémiste, oui.
Très claire. Il n'y a pas d'ambiguïté.
Ouais.
Et on va revenir dessus, d'accord ?
Oui, c'est une autre époque.
Something in a way she moves attracts me like no other lover. Something in the way that she woos me. Don't want to live her now.
Ben merci Monique, toujours avec Gwenola Leroux, Le Temps des Gilets, roman vrai, ben l'Arbaton. Hein, voilà, on a plein de discussions, on se dit plein de choses comme ça. Là. Alors oui, avant de faire l'émission, il y avait pas mal de hasards comme ça qui se sont tombés dessus. Il y a eu le Brésil ce matin, c'est au niveau du mot peuple, au niveau de la... C'est pas rien. Et puis hier, sur la seule chaîne de télévision à peu près envisageable, c'est-à-dire à Public Sénat, paradoxalement, je ne sais pas si vous regardez cette chaîne-là, ça vous arrive là ?
Ça m'est arrivé récemment.
Il y avait un rappel des Gilets jaunes. Des Gilets jaunes. Et qu'est-ce qu'on a vu ? Alors là, c'est les médias, je suis d'accord avec vous, il n'y a pas aucune crainte. Hein. Qu'est-ce qu'on a vu ? On a vu Brigitte Bardot. Brigitte Bardot venir apporter son soutien aux Gilets jaunes.
Ah bon ?
Oui, mais on la voit, on l'a revêtue à Gilets jaunes, et puis elle vient serrer la main aux Gilets jaunes.
Bon,
on a vu Dupont-Aignan.
Oui, oui.
Voilà, on a eu Francis Lalanne.
Oui.
Vous voyez ce qu'il sait ?
Je vois, bien sûr.
Niveau. Puis on a vu ce grand comique, comment il s'appelle, une espèce de bigard. qui est la vulgarité même. Voilà, c'est, donc il y a eu ce hasard, et je suis tombé, on m'a envoyé dans, par le courrier cette, ce trac ce matin, et je me disais, je pensais à ça. Je pensais
alors, pour introduire un peu plus d'élégance quand même, on peut dire que Juan Branco était dans le mouvement des Gilets jaunes, que c'est un jeune, voilà, politique et penseur quand même intéressant, que Vivienne Westwood a apporté à travers son soutien, Julian Assange a apporté aussi son soutien aux Gilets jaunes.
Mais c'est ce que j'appelle, par rapport au populisme, il y a un élitisme qui existe. Parce que si on prend ces gens-là, c'est vraiment l'Ali. Bigard et Lalanne, c'est vraiment l'Ali. Heureusement qu'il y a des gens pour penser au-dessus, pour enlever les confusions, c'est ça que je veux dire.
Oui, mais enfin, je veux dire, pour moi, il n'y a pas de contradiction entre penser et être dans la rue, quoi.
Non, mon
voilà. Bon, il y a, on a, en fait, ce sont les médias et les médias au service du pouvoir, enfin, qui ont caricaturé, qui se sont acharnés à caricaturer les Gilets jaunes, enfin, en tant que personne et en tant que mouvement, quoi. Et justement, moi, ce que je voulais réintroduire à travers mon livre, c'était un vécu qui n'était pas du tout, justement, qui rentrait dans la complexité humaine, voilà, de ce mouvement des Gilets jaunes, parce que ça n'a rien de caricatural, quoi.
Enfin, Gwenola, ce que je veux dire, il n'y a pas que les médias. Le dernier séjour, j'ai pris Nuit debout, par exemple, oui. Je suis tombé sur une dame assise sur un pliant, qui était en train d'expliquer à qui voulait bien l'entendre, comment on fait de l'électricité avec je ne sais pas quoi. Ça n'avait plus rien de politique.
Oui.
Je veux dire, on est dans une confusion totale.
Mais la vie n'est... Je ne croyais pas que la vie est un peu confusion.
Oui, mais pas...
oui, mais... Je ne sais pas, il y a...
Là, il y a une phrase, dans ce tract, attendez, qui nous jugeons quand même l'ère de la démocratie bourgeoise moins irrespirable que celui de ces arrière-boutiques où se cultive la nostalgie des baignoires, du flic et des fours crématoires. Bien sûr qu'il y a une analyse, on n'avait pas besoin de...
La démocratie bourgeoise aujourd'hui, incarnée par le pouvoir de Macron, voilà.
C'est pas le Chili.
Mais c'est pas non plus réellement la démocratie au sens du peuple, puisqu'il y a quelqu'un qui qui interrogeait sur le sens de démocratie. Je veux dire, c'est quand même aussi un pouvoir qui entame de plus en plus les libertés. Nous, concrètement, on a vu pendant depuis 4 ans là qu'on était empêchés de manifester, y compris pour les retraites. Après, parce que il y a eu les Gilets jaunes, mais après il y a eu toute la lutte contre la réforme des retraites. On était empêchés d'aborder la manifestation. Il fallait faire des détours dans Paris. On pouvait pas approcher l'Assemblée nationale. Mais enfin, l'Assemblée nationale, ça devrait être notre maison à tous.
Non, mais absolument. Hein?
Voilà. Donc après on a été mis au banc de la société parce qu'on voulait pas se faire injecter un produit. Voilà, on a chacun son opinion et son choix. Mais enfin, c'était quand même une atteinte à la liberté individuelle. Mais que moi, je n'oublierai jamais être mis au banc de la société pour cette raison. Alors que maintenant, et on attend toujours les excuses. Alors des gens que vous n'aimez pas, que je n'aime pas forcément non plus au plus haut point, dans ceux que vous avez cités tout à l'heure, eh bien, malgré tout, ces gens-là, ils se sont aussi battus à un moment donné contre ça, contre ces atteintes aux libertés. Voilà, moi, j'irai pas les chercher, mais c'est ça la réalité. Moi, je pense par exemple, qu'est-ce qu'un syndicat, souvent, enfin, moi, j'ai un père syndicaliste, alors, donc, j'ai souvent entendu la définition d'un syndicat, c'est à un moment donné, un syndicat, c'est un rassemblement du plus grand nombre de travailleurs pour défendre ses intérêts. Et on n'a pas à tenir compte des opinions ou des votes politique dans un syndicat normalement, parce que justement on rassemble les gens pour qu'ils soient efficaces pour lutter on les rassemble en grand nombre. Pour moi, les Gilets jaunes, c'est un peu ça, c'est-à-dire c'est un rassemblement du plus grand nombre contre un pouvoir néolibéral, capitaliste, néo-capitaliste, qui est mondialiste, contre une politique mondiale d'exploitation du peuple,
mais
d'exploitation
là,
des gens.
Mais
voilà.
Là, on sera d'accord. C'est ça. Mais là, on est d'accord.
Voilà. Et ça, ça, il se trouve que ça fait descendre dans la rue,
d'accord,
et ça fait réagir des tas de gens, y compris des gens qui vont politiquement peut-être voter très différemment.
Et qui seront très dangereux après, bien sûr.
Mais oui, mais ça, on peut pas faire. Enfin, je veux dire,
ils seront très dangereux. On est sur un chemin d'extrême droite. Là, il s'est passé. Le peuple, c'est ça. On va parler football deux secondes. Ça vous intéresse le football, je suis sûr. L'équipe de Lyon a pris pour entraîneur un type qui était l'entraîneur de l'équipe de France il y a quelques années. Ils ont engagé un joueur croate. Ce joueur croate est arrivé là. Qu'est-ce qu'il a commencé par faire? Il a commencé à faire un discours homophobe et à faire des discours fascistes. Qu'est-ce qui est le plus populaire? Qu'est-ce qui appartient le plus au peuple, sinon le football? L'entraîneur, on lui a posé la question, il dit « Ah non, ces gens-là sont réunis par le football, c'est pas mon problème, il peut faire ce qu'il veut ». Et ben, c'est quelque chose que je n'arrive pas à admettre.
De toute façon, ces gens-là, je veux dire, ils sont soumis aux lois comme les autres. Donc, je veux dire, ils sont tout individu tenant des propos discriminatoires sont condamnables.
Mais Gonala, vous avez un jugement, vous, d'accord. Donc, vous avez une réaction par rapport à ça.
Ah c'est intolérable. Bien sûr que c'est intolérable. Donc, j'ai jamais toléré de la part de certains camarades gilets jaunes, les discours antiféministes crasses. Mais vraiment, j'en ai entendu des anti-féministes crasses, homophobes ou raciste, mais attention, on peut être d'extrême droite et ne pas être raciste, un de mes personnages d'extrême droite, il est pas raciste, Alors par contre, on peut s'entendre sur le fait que faire venir des travailleurs détachés, faire venir des travailleurs d'autres pays pour mieux les exploiter et pour faire des chômeurs en France, voilà, c'est pas vertueux, quoi. Et là-dessus, moi je pense que là il y a quelque chose d'intéressant sur l'entente qu'on peut avoir avec d'autres gens. Mais bien sûr, certainement pas, on ne va pas les exclure parce que, pour des raisons racistes, bien sûr. Moi, je me suis beaucoup battue sur dans des groupes, c'est surtout des groupes où il y avait des discussions. Il y a eu comme ça quelques groupes qui se sont formés, notamment au moment du confinement, parce que les gens étant enfermés chez eux, on a continué à discuter. Et il y a quelques personnes assez courageuses, entre guillemets, qui ont voulu créer des groupes qui rassemblaient un peu tout le monde. Enfin, voilà, des gens dans les cortèges, qui prenaient éventuellement un café ensemble, en discutant, pas toujours sérieusement d'ailleurs, et puis qui défilaient ensemble. Bon. Et là, on a commencé vraiment à s'étriper, quoi, parce qu'il y avait... Voilà, c'était là, au moment, quand on commence à discuter, là, ça devient... c'est toujours certain, c'est finalement une minorité
Vous, en tant qu'intellectuel, vous avez une connaissance de l'histoire. Vous savez bien qu'il y a une dimension dans l'histoire. Vous savez bien que, on va aller vite, le nazisme n'est pas le fascisme, c'est pas la même chose, est la même chose. Je veux dire que 68 n'est pas la guerre d'Algérie. Il y a une véritable tragédie en Algérie, qui n'a peut-être pas la même tragédie pendant 68. Et j'exclus pas les yeux crevés, les mains, etc. Absolument pas. On sait que ça existe. Mais c'est pas la même drame. J'ai vu une pièce dernièrement, il y a quelques années, ça s'appelle Lettre d'Algérie. C'était des types qui écrivaient à leur fiancée, etc. Et à un moment donné, il y a un type qui revient, des années plus tard, et qui dit pourquoi la guerre d'Algérie a été comme ça pendant longtemps méprisée et oubliée? Parce que 68, qui était bien plus spectaculaire, est venu trop vite après. Et si on fait le calcul, 62, c'est l'affaire de la guerre d'Algérie. 6 ans après, c'est... Voilà. Mais on ne peut pas comparer l'intensité de la guerre d'Algérie avec 68. C'est pas possible, au niveau de l'intensité. Et dans votre livre, là, vous dites vous-même, je suis une résistante. Je suis une résistante, etc. On n'est pas dans l'occupation. Voilà.
Mais les résistants ne se limitent pas à l'occupation. Enfin, je veux dire, une résistante au pouvoir.
Oui.
au pouvoir en place.
L'intensité n'est pas la même,
L'intensité n'est pas la même, mais la tendance quand même fascisante de ce pouvoir aujourd'hui en place est là quand même, d'atteinte aux libertés. Enfin, quand on s'est fait, ça c'est concret, quand on a défilé contre la loi sécurité et liberté, qui était un rassemblement de plusieurs, de beaucoup de tendances. Il y avait des Gilets jaunes, mais il y avait aussi la Ligue des droits de l'homme. C'était même organisé, je crois, par la Ligue des droits de l'homme, cet appel, cette manifestation, il y a à peu près un an, c'était en décembre, je crois. Qu'on a été chargé, mais total, par les côtés. Le cortège a été chargé par les côtés, par les forces de l'ordre. Donc, il y avait un mot d'ordre de nous charger, mais totalement gratuitement, c'est-à-dire il ne se passait rien, les gens marchaient tranquillement, on a été chargés mais sans arrêt et frappés, matraqués, je veux dire, les gens ont été arrêtés, emportés, je veux dire en garde à vue, mais pour rien, je veux dire, mais c'est quoi
ça, mais c'est pas moi qui veux vous dire le
voilà
contraire.
Voilà, non mais je vous dis, il y a pire, oui, mais je suis d'accord, voilà. bien sûr qu'il y a pire. Et je ne dis pas que vivre sous le régime de Macron c'est pareil que vivre sous le régime d'Hitler ou de Staline, parce que j'ai beaucoup lu sur la Russie, j'ai des raisons personnelles aussi, mais j'ai beaucoup lu là-dessus et beaucoup lu sur le stalinisme. Ça, bien sûr que ce n'est pas pareil, mais il y a quand même une tendance. Et ce n'est pas pareil aussi, je pense, grâce justement à l'histoire sociale et politique de la France.
Heureusement.
Parce qu'on résiste, qu'il y a toujours eu de la résistance à travers de multiples organisations associatives, politiques, syndicales, etc.
Mais là-dedans, vous avez des penseurs qui ont, on va appeler ça comme vous voulez, écrivains, qui ont empêché la confusion. De se retrouver avec un mec d'extrême droite, un homophobe, un antisémite, etc.
Oui, oui.
Voilà, ça c'est des bases qui sont... Voilà. Bon, je vais raconter une histoire très rapidement. J'étais nassé comme tout le monde. Moi, la grande manifestation qui descendait de la porte des Lilas jusqu'à République, là. Oui, et comme je suis claustrophobe, je me suis trouvé en.
Bah voilà, oui, c'est celle-là dont je parlais.
Oui, c'est celle-là. J'ai été nassé. J'ai trouvé un moyen et je tombe sur deux jeunes filles. Deux jeunes filles, entre guillemets, de CRS, casquées et tout. À l'intérieur, il y avait un très beau visage d'ange black. À côté, il y avait un très beau visage d'ange là. Et puis, elles étaient là, elles bloquaient. Alors, donc, sur le féminisme, on peut réfléchir sur le problème, c'est un problème. Oui, et qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu un mouvement de foule. Un mouvement de foule qui s'est passé, là. Brusquement, elles ont pris leur matraque. Et elles ont été les premières à taper là-dessus.
Ouais.
Bien sûr.
Oui, voilà.
Elles appartiennent aussi au peuple.
Elles appartiennent... Des policiers, oui. Pas pour vous, oui.
C'est le peuple.
Mais oui.
Vous savez,
mais je pense que justement, la démocratie, une démocratie meilleure, accrue, qui donnerait la parole plus au peuple, effectivement, doit donner la parole à tout le peuple. C'est-à-dire qu'il n'y a pas, doit pas y avoir de, à part des opinions racistes, homophobes, antiféministes, etc., il n'y a pas de tabou. C'est-à-dire qu'il faut que chacun s'exprime et que justement, par l'échange, par la discussion, on arrive à avancer et à progresser.
Vous savez ce qu'on a reproché à Pasolini, qu'il rende quelque part insupportable, bien qu'il dise, il dit une vérité. Il dit Pasolini était contre les étudiants en 68.
Ah bon.
Parce qu'il, il a eu des mots sympathiques pour la police italienne en disant, vous comprenez, les étudiants, c'est des fils de petits bourgeois. Ce qui n'est pas tout à fait faux.
Oui.
Et ces types qu'on a été chercher en mettant des matraques entre les mains, etc., c'est des fils des paysans, etc.
Mais ça, c'est du racisme de classe.
Et bien sûr.
Pour moi.
Mais le peuple est là-bas. Mais le peuple, il était. Bah oui. Il était beaucoup plus du côté des ouvriers qui étaient au chômage, qu'on avait mis foutu dans la police. Bien sûr.
Oui, c'est du racisme de classe.
Enfin,
c'est ce qu'on pouvait aussi pratiquer sous Staline et ses successeurs. C'était un racisme de classe.
Quelles que soient les scories que comporte le mouvement des Gilets jaunes, quels que soient les parasitages dégradants, voyons que dans le soudain redressement des courbés, dans la vocifération des ignorés, dans l'exaspération des derniers de cordée, il y a la revendication d'hommes et de femmes, de vieux et de jeunes, d'être reconnus comme des êtres humains à part entière. Edgar Morin. C'est pas mal, non?
Oui. Ouais. Ton, bras d'accord là-dessus.
C'est bien, sur moi.
D'accord. Et puis, non, je pense qu'on a d'autres
accords.
Oui,
bien sûr, bien sûr. Il faut bien faire l'avocat du diable, on ne va pas s'en tirer.
Hein.
Et il y a un moment donné, je n'ai pas retrouvé dans votre livre là, où ça se situe, et ça c'est très bien vu, parce que on est encore dans l'indéfinissable. À un moment donné, vous dites, voilà, ils sont partis dans un problème d'essence, là. Et puis, personne ne s'est douté qu'il y avait une essence du peuple, vous le dites. Voilà, oui. C'est très ambigu. Vous savez que c'est le marquis de Sade, lorsqu'il a rejoint la section des piques, il supportait pas les sans-culottes, hein, à cause de leur odeur. Hein. voilà. Mais il y a quelque chose. Bien, on est dans l'insaisissable. Avec le mot peuple, on est dans l'insaisissable.
Oui, là. Mais je ne crois pas parler d'essence du peuple. Hein. Je pense qu'on est, parti d'un problème d'essence, de taxe sur l'essence.
Oui, allez-y, c'est tellement qu'il évalue. Hein.
Et on est arrivé à des questions presque d'essence plutôt. Humaine, qu'est-ce que l'homme...
Ça va, très bien, hein, très bien. Voilà. C'est moi qui ai mal lu. Petite parenthèse, il y a un livre qui est aux éditions Amsterdam, c'est Le style réactionnaire, ça tombe bien, de Maurras à Houellebecq. Hein? Et ce qui est très drôle, c'est qu'on vient d'une époque où le mot réactionnaire était quand même quelque chose de douteux, et là, des gens sont fiers d'être réactionnaires. Et Houellebecq dit à un moment donné, vous êtes réactionnaire, c'est bien, tous les grands écrivains sont réactionnaires. Et il cite Balzac, Flaubert, Baudelaire, Dostoïevski. Ça veut dire qu'on en arrive à... Donc je le conseille, ce livre, c'est le style réactionnaire de Maurras à Houellebecq. Et quand on pense que nos deux abrutis là, se réclament, un de Maurras et se réclament d'Auguste Comte, je ne sais pas si vous situez bien Auguste Comte, c'est la pire réaction qui puisse exister.
Oui.
Alors qu'il y en a un qui a écrit sur Nietzsche au début de sa vie, il y a 20 ou 25 ans, quoi.
Ouais.
Voilà. Qu'est-ce qui vous a fait, Victor ? Il vous plaît pas, Victor Hugo ?
Victor Hugo ?
Ouais.
Oh ben, si,
c'est
si,
dur, non, vous êtes si, dur avec lui.
Si, il me touche beaucoup, ouais. Victor Hugo, il me touche beaucoup depuis très longtemps.
Ouais.
Oui, je me souviens j'étais très très sensible, je me souviens en classe de cinquième, à La Légende des siècles, je trouvais ça absolument merveilleux. En fait, j'en avais une image très idéalisée sur le plan de l'engagement politique, voilà, c'était plus ça. C'est-à-dire que j'avais toujours entendu justement. Enfin, j'avais toujours vu le côté soutien populaire de Victor Hugo et en regardant de près en fait j'ai vu que son parcours était beaucoup plus complexe que ça et il n'a pas été républicain.
Il a fait un bel art, c'est quand même un bel art qu'il est parti du royalisme.
Oui.
Il a fini de façon assez sympathique. Oui. Hein, on ne peut pas y en vouloir. Hein.
Ah non, mais c'est sûr qu'il a eu une belle évolution. Mais par exemple, par rapport à la Commune, bon, c'est un peu décevant. Quoi. Mais bon, je comprends aussi, il était dans un deuil à ce moment-là par rapport à son fils. Donc, il était tellement, tellement mal que... Voilà. Mais après, il a soutenu les communards après la fin de la Commune, lors de la répression.
Il y a aussi sa position sur la peine de mort.
Oui, bien sûr.
Qui n'est pas détestable non plus. Non, c'est quelqu'un...
Oui, mais
d'accord.
J'aime beaucoup Victor Hugo. Je l'aime beaucoup littérairement. Je le trouve absolu. Moi, j'aime beaucoup son lyrisme. Beaucoup.
Ce qu'on pourrait dire, c'est... j'y tiens absolument par rapport à Front Populaire, la revue là, de Houellebecq et Donfray. Il y a un côté rabougri. Qu'il n'y a pas chez les Gilets jaunes. Là, maintenant, j'arrive sur votre territoire. Vous dites à un moment donné que les Gilets jaunes, c'est le corps.
Oui, justement, ça m'a...
C'est le corps. Et eux, c'est une absence de corps. Il y a une crispation généralisée, il n'y a pas d'éclat. Pour ça, je disais que ce type qui s'est piqué de Nietzsche, il y a quelque chose qui n'a pas... Il est peut-être très intelligent, mais il y a quelque chose qu'il n'a pas compris. Et effectivement, les Gilets jaunes, il y a un côté de spectaculaire, etc., bien sûr.
Oui, je pense que c'était... moi, j'ai beaucoup senti ça, c'est vrai qu'il y avait une présence du corps, voilà, et puis les gens étaient heureux d'un contact retrouvé avec les autres, d'un contact charnel retrouvé avec les autres. Ça m'a aussi assez étonnée au début, quoi. Des gens allaient dans des petits rassemblements sur des ronds-points à Paris parce qu'ils pouvaient pas marcher. Ils disaient, oh, mais, enfin, on retrouve un contact avec les autres. Enfin, on retrouve de la fraternité.
Vous avez fait ça qu'à Paris, les Gilets jaunes, ou...
Un peu en Bretagne aussi. Ouais. Sur...
Mais c'est pas pareil, si?
Bah non, c'est pas pareil.
Paris, hein, est une ville.
C'est beaucoup. C'est très, très divers. Mais j'ai retrouvé quand même, à travers certains témoignages de gens en province, enfin en Bretagne, pareil, hein, cette rencontre avec une diversité. Enfin, il y avait les déterres, il y avait les autres, il y avait ceux qui critiquaient tout, il y avait une fraternisation. Enfin, bon, et justement, bah oui, c'est cette présence des corps dans un même lieu, avec aussi une liberté de se raconter, une liberté de dire ses misères, en fait, de partager aussi ses misères, et la fraternité assez spontanée qui venait après, c'était quelque chose qui émouvait beaucoup les gens. Et puis il y a eu tous ces actes de bravoure,
de
courage. Mais déjà, il fallait à certains moments. Enfin, moi, je sais que il y a un moment où ils ont dit on va sortir les fusils. Enfin, oui. Je me souviens très bien de ce moment-là.
On revient à 2-3 minutes là. On n'a pas sorti les fusils.
Non,
donc on est quand même d'un certain côté dans une parodie. On est quand même dans une parodie, même s'il y a des accidents. Ouais. On ne sort pas les fusils.
Le pouvoir, vous voulez dire?
Non, même les gilets jaunes.
Ah oui, non, mais c'est pas les gilets jaunes qui ont dit on va sortir les fusils. Hein. C'est le pouvoir qui disait on va faire appel à l'armée.
Il y a un individu, vous connaissez mieux que moi l'histoire, qui est ouvertement d'extrême droite, qu'on a appelé à la lutte armée.
Ah ben il y a eu des tas d'appels. Hein.
Voilà.
Il y a eu des tas d'appels.
Oui, le boxeur était très bien, le boxeur.
Le boxeur à main nue, lui, c'était...
Il était magnifique, le boxeur.
À main nue, lui, esthétiquement. Oui, le corps, la présence du corps, là, il y était.
La présence du corps, on était en plein dedans, bien sûr.
Non, mais moi, par exemple, David Dufresne, le journaliste qui a fait « Un pays qui se tient sage », le livre, puis le film, le dit très bien à un moment donné. Il dit, mais... Les Gilets jaunes étaient un mouvement extrêmement pacifiste. Parce que c'est vrai, quand on réfléchit, on nous accuse toujours de violence. Mais avec les millions de gens qu'on a eus dans la rue à un moment donné, enfin, je ne sais pas si vous vous souvenez, si vous êtes descendu dans la rue, mais... c'était des flots de foule à Paris, mais partout, dans toutes les rues, quoi. D'un quartier à l'autre, on sentait le flot qui allait vers les champs, déjà, enfin, en venant. Il n'y a pas eu un seul, justement, fusil ou arme vraiment sorti. Voilà, mais ça prouve quand même la profonde idéologie pacifiste, au fond, enfin pacifiste dans le sens non guerrière, même si il y avait une détermination pour lutter pour la liberté, pour obtenir les revendications sociales et politiques, mais non guerrière violente, quoi. Quand même. Il y a de la guérilla urbaine, par contre. C'est vrai.
Hein?
Il y a une dimension de guérilla urbaine.
Oui, mais qui reste à certains côtés.
Voilà,
bien sûr.
Qui reste dans la casse de quelques voilà. matériels.
Non, oui, d'accord. Alors, Gwenola Leroux, vous avez écrit Le Temps des Gilets jaunes, roman vrai aux éditions L'Harmattan. Oui, beau lapsus, hein. Oui, c'est parce qu'il y a un gilet jaune à côté, alors, sur la couverture. Alors, vous allez sortir et vous allez trouver le Front Populaire, mettre 14 euros dans le là, et vous allez comprendre pourquoi au niveau, c'est quasiment le thème de l'émission, pourquoi au niveau idéologique, il faut être très sévère avec nous-mêmes et avec les autres, parce qu'on est en train de basculer.
Voilà, mais
une amie m'a dit, dans 2 ans, l'extrême droite sera au pouvoir. Je leur ai dit, mais tu rigoles, il y a deux ans auparavant, et là, quand vous lisez ça, ça sent très, très, très mauvais. Ils ont quand même réussi à rameuter toute la réaction possible, dont Renaud Camus, l'homme du grand remplacement.
Oui.
Faut quand même y arriver. Hein. Mmh. Bon, oui, alors oui, vous vouliez dire, je vous ai interrompu lâchement là.
Je ne sais
plus.
Plus.
Donc, sais plus. Le style réactionnaire de Maurice de Maurras à Houellebecq, hein, audition Amsterdam.
Ce
qui est quand même dur. Notre pseudo prix Nobel est qualifié de réactionnaire. C'est bien d'ailleurs. Et bah oui, Alid, le temps des gilets. Ça vous va ça, des gilets, roman vrai, Godel à Leroux, l'édition de l'Harmattan. Hein? Et on remercie Monique à la technique. Si elle est là, vous n'êtes pas disparue, Monique. Non, c'est parfait. Merci.
Salut à toi, ô mon frère, salut à toi, peuple khmer, salut à toi, l'Algérien, salut à toi, le Tunisien, salut à toi, Bangladesh, salut à toi, peuple grec, salut à toi, petit indien, salut à toi, punk iranien, salut à toi, rebelle afghan, salut à toi, le dissident, salut à toi, le chilien, salut à toi, le petit malien, salut à toi, le mohican, salut à toi, peuple gitan, salut à toi, l'éthiopien, salut à toi, le tchadien, salut à vous, les partisans, salut à toi, la chaulie allemande, salut à toi, le vietnamien, salut à toi, le cambodgien, salut à toi, le japonais, salut à toi, le thaïlandais, salut à toi, le laotien, salut à toi, le coréen,
salut à toi, le polonais, salut à toi, l'irlandais, salut à toi, l'européen, salut à toi, le mongolien, salut à toi, le hollandais, salut à toi, le portugais, salut à toi, le mexicain, salut à toi, le marocain, salut à toi, le libanais, salut à toi, le pakistanais, salut à toi, le philippin, salut à toi, le jamaïcain, salut à toi, le guyanais, salut à toi, le togolais, salut à toi, le guinéen, salut à toi, le guadeloupéen, salut à toi, le congolais, salut à toi, le sénégalais, salut à toi, l'afro-cubain, salut à toi, le portoricain, salut à toi, la haute volta, salut à toi, le nigeria, salut à toi, le gaboni, salut à toi, le vieux ch'timi, salut à toi, Che Guevara, salut au comité de soldats, salut à tous les hommes libres, salut à tous les apatrides, salut à toi, la Bertaga, salut aussi à la Banda, salut à toi, punk anarchiste, salut à toi, skin communiste, salut à toi, le Liberia, salut à toi, le Sri Lanka, salut à toi, le sandiniste, salut à toi, l'unijambiste, salut le mouvement des jeunes arabes, salut à toi, le Guatemala, salut le P4 du contingent, salut à toi, le Shotokan, salut à toi, peuple kanak, salut à toi, Tchécoslovaque, salut à tous les petits dragons, salut à toi, qui est le Japon, salut à toi, le jeune malgache, salut à toi, le peuple basque, salut à toi, qui est un violon, salut à toi, et Morocon, salut à toi, le Yougoslave, salut à toi, le voyou slave, salut à toi, le Salvador, salut à toi, le Molodoy, salut à toi, le Chinois, salut à toi, le Zaïrois, salut à toi, l'Espagnol, salut à toi, le Ravachol, salut à toi, le Hongrois, salut à toi, l'Iroquois, salut aussi à tous les gosses, des îles maudites jusqu'à l'Écosse, salut à vous tous les Azous, salut à la jeune garde rouge, salut à toi, le peuple corse, salut aux filles du Crazy Horse, salut à toi, la vache qui rit, salut à l'Orel et Hardy, salut à toi, peuple nomade, salut à tous les camarades, salut à toutes les mères qui gueulent, salut aussi à Yul Brenner, salut à toi, l'handicapé, salut jeunesse du monde entier.
J'ai dans mon ventre une enfant écrasée par les fleurs au plafond, par le blanc de l'évier, les morceaux d'une voiture explosée dans une ville de Méditerranée. C'est une enfant que jamais su demander, et c'est rien que rire et pleurer. Je t'aime, gars. J'ai dans mon ventre une enfant qui pleure de joie sur la peau qui l'accueille et dit « Gare-toi ». Cet enfant ne sait pas parler, elle dit n'importe quoi. Tout à l'heure elle sera brisée sans savoir de quoi. C'est une enfant que jamais su demander, et c'est rien que rire et pleurer. Je t'aime, garde-toi. Je t'aime, garde-toi. La 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 la. tendent leurs bras, leurs urnes, leurs cabas, leurs contrats, leurs gares à toi. Elle vote, elle paye, elle dresse l'oreille, elle choisit, elle a compris, elle gare à toi. Dans l'œuf du rêve, elle commande le cinéma, met en scène son trépas. Elle ne mange ni caviar, ni cœur de rat. Elle respire sans peur, elle aime son labeur. Elle est Kidam qui regarde la dame au volant du camion fantôme. Elle s'en va, gare à toi. Elle t'aime, gare à toi.
Avant l'heure de Trou Noir, nous allons démarrer quelques petites annonces. Nicolas, c'est à toi.
Bonjour à toutes et tous. Quelques informations sur les animations de notre librairie fédérale, la librairie Publico, 145 rue Amelot, métro République Oberkampf ou Fille du Calvaire. Ce samedi 11 novembre, ce sera le vernissage d'une exposition d'affiches pacifistes et antimilitaristes. Voilà, le jour est bien trouvé. Et cette exposition se déroulera du 11 novembre jusqu'au 3 décembre. Et la mise en cadre est concoctée par Jojo de l'Union Pacifiste. Donc ce samedi 11 novembre, vernissage de l'expo d'affiches pacifistes et antimilitaristes. Dimanche 12 novembre à 16h, ce sera un chanteur catalan, Miguel Pujato, qui viendra à 16h donc à la librairie. Écrivain et chanteur, il est l'auteur d'une quinzaine d'albums. Et donc on vous convie à venir l'écouter et l'entendre à la librairie Publico ce dimanche 12 novembre à 16h. La semaine suivante, le 23 novembre, donc ça doit être... le 23 novembre à 19h, c'est une animation à l'initiative du groupe d'Ivry. Elle est intitulée « On a voulu nous prendre pour des cons, c'est raté ». Le thème, ce sera bien sûr en lien, ce sera une critique de l'éducation liée à ceux qui se sont appelés les lascars du LEP électronique. Donc critique de l'éducation, mais aussi réflexion sur la lutte des classes. Dimanche 26 novembre à 16h, c'est un concert de soutien à l'Union Pacifiste qui vous est proposé donc à la librairie Publico, dimanche 26 novembre à 16h. Il y a un très beau plateau. Vous pourrez écouter et applaudir Nathalie Solens, Philippe Alterac, Pedro Fidalgo, Fabienne Elkoubi et Rémi Tarier. Et tout ça vous sera... présenté par le plus grand chroniqueur, le chroniqueur vedette de Radio Libertaire, à savoir Bruno Daraki. De nombreuses radios cherchent à nous l'arracher, mais il reste là, il est bien avec nous, et il a bien raison. Ce sera donc ce dimanche 26 novembre à 16h, concert de soutien à l'Union Pacifiste. À très vite.
On gère le manque d'air, les crises de nerfs, nos amitiés, nos corps aux pieds, on gère. Tous les efforts de notre corps, nos pleins d'essence et nos absences, on gère. Voilà que s'insinue le vocabulaire des hommes d'affaires dans nos mots ingénus. On gère nos plans de carrière et nos horaires, nos traits d'humeur et nos tumeurs, on gère. Tous les devis de notre vie, on paie comptant son stock de temps, on gère. On digère comme on peut, se parler fiable d'experts comptables, on se dit que c'est ce qu'il y a de mieux.
on gère la situation, nos relations, alors qu'on erre sans aucun repère, on gère nos petites envies et nos avis, on croit qu'on pense, mais on compense, on gère. Et moi, il y a des jours où je me dis que nous deux, on pourrait aussi se mettre à gérer comme des valeurs tous nos petits excédents de bonheur, au lieu de flamber par tous les bouts et de consommer plus que notre part. Garder un petit peu notre amour sous les draps, au fond d'une armoire. On a bien de quoi mettre de côté, on pourrait regarder fructifier nos petites économies de caresses dans leur plan épargne tendresse, se constituant en cas de besoin pour le jour où on s'aimera moins, un capital de sympathie pour s'accorder quelques crédits, se constituant en cas de besoin pour le jour où on s'aimera moins, un capital de sympathie pour quand viendra la pénurie d'amour.
Radio Libertaire 89.4, la radio sans Dieu, sans maître, sans publicité, la radio de la Fédération anarchiste. On est lundi, il est 16h, c'est l'heure de Trou Noir.
Et oui, c'est l'heure de Trou Noir, Nicolas au micro, en compagnie de Serge, bonjour Serge.
Bonjour.
Et en compagnie en studio de Michel Rollin. Bonjour Michel.
Bonjour Nicolas, bonjour Serge.
Et aujourd'hui, donc, nous allons consacrer cette émission, ce trou noir, pour évoquer notre compagnon Ronald Craig, qui est décédé le vendredi 8 septembre 2023 à Montpellier, à l'âge vénérable de 94 ans, après une vie peu commune et fort bien remplie. Donc voilà, nous allons passer ces deux heures à l'évoquer et à l'entendre aussi. Donc, pour le présenter en quelques mots, citoyen britannique, né le 16 juin 1929 à Alexandrie, en Égypte, il a passé son enfance à Port Saïd, entre une mère franco-libanaise, un père anglais, comptable, et une grand-mère sicilienne. Voilà déjà un beau mélange. Il fréquente le lycée français et, durant la guerre, est marqué par les bombardements de la ville. Compagnon atypique et attachant, Ronald Craig s'était intéressé aux idées libertaires à la suite d'un parcours qui n'eut rien de linéaire, vous allez le voir, mais où l'envie d'apprendre et de comprendre ont toujours été ses guides. On le trouve tout d'abord commis du consulat britannique à 16 ans, puis membre du clergé français jusqu'à 39 ans avant de se défroquer, rassurez-vous, et de s'intéresser à la sociologie et l'histoire qu'il étudie en France et aux États-Unis. Dans le même mouvement, il découvre les idées libertaires et consacre une thèse à l'anarchisme américain. C'est ainsi qu'il s'était fait le spécialiste des États-Unis, des premiers socialistes, dont le fourierisme et ses suites, et des utopies. Nous l'avons connu autour de cette table, pour certains, pour le livre qu'il a consacré à Élisée Reclus en 2013, Élisée Reclus et les États-Unis, mais on lui doit aussi Histoire de l'anarchisme aux États-Unis, Sacco et Vanzetti. Nous évoquerons aussi le site web dont il était le créateur et l'animateur, RAforum pour recherche sur l'anarchisme, site aujourd'hui malheureusement disparu, et aussi la revue Réfraction dont il était un contributeur régulier. On pourrait aussi évoquer ses collaborations avec les deux CIRA, celui de Lausanne et celui de Marseille, et bien d'autres activités encore. Comme je l'ai dit donc en notre compagnie pour cette évocation, Michel Rollin, pour le film qu'elle a consacré à Ronald, un film intitulé « Ronald, une essence de l'utopie ». Et j'annonce par avance que le film sera projeté à la librairie Publico le 15 décembre prochain. Heure à préciser, mais on aura l'occasion de vous le rappeler. Un peu plus tard, nous serons rejoints par notre compagnon Jean-Manuel, l'animateur de L'Émuse s'amuse et du Proton se rebiffe sur Radio Libertaire, et il nous parlera du temps qu'il a passé en compagnie de Ronald à travailler pour la revue Réfraction. Et puis, à distance, dans des entretiens réalisés au téléphone, Federico Ferretti, géographe, et Daniel Pinos, nous enverrons d'autres témoignages, et nous aurons aussi quelques divers enregistrements audio réalisés par Christiane Passevent,